Dans les GG, dans les grandes gueules maintenant, avec Bruno Poncet, avec Abel Boyi et avec Barbara Lefebvre, on va regarder ce qu'a décidé la justice administrative, c'est-à-dire d'assouplir les conditions de parloir de Salah Abdeslam.
Oui, le seul membre encore en vie des commandos meurtriers du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, qu'on présentait jusqu'à présent comme l'homme le plus surveillé de France. Bah, il le sera un peu moins, puisque la justice administrative a décidé de l'autoriser à nouveau d'avoir des contacts physiques, lors des parloirs. Il avait droit à des parloirs, mais c'était derrière une vitre avec un hygiaphone. Là, il pourra directement avoir ce contact physique, notamment avec ses proches et notamment avec sa femme, puisqu'il s'est marié. Oubliez finalement l'histoire de la détention de la clé USB. Visiblement, le tribunal administratif estime que comme il est à l'isolement, parce qu'il reste à l'isolement, il a besoin de ses contacts physiques. Est-ce qu'on a raison d'assouplir ses visites ?
Bruno Poncet ?
Moi, déjà, je ne comprends pas pourquoi il a vendu le vieil. En fait, je pense que c'est une erreur.
C'est l'une des deux prisons censées accueillir les détenus les plus dangereux de France.
Ouais, mais tu crois pas? Moi, personnellement, ce que je vois de ça, de cette prison-là et de le fait de le mettre là-dedans, je vois que c'est plutôt un coup médiatique que fait Darmanin en disant, regardez, j'ai fait deux prisons, soi-disant les plus surveillées de France, ce qui c'est pas vrai. Les prisons les plus surveillées de France, c'est les centrales. Et de dire, voilà, je mets ça Abdeslam, qui est le prisonnier le plus célèbre de France, je le mets là-bas. Comme ça, regardez, non, c'est une connerie. En fait, il serait dans une centrale, on parlerait pas de lui. Il serait comme Carlos. Ceux qui se souviennent de Carlos, c'était quand même un terroriste un petit peu plus compliqué et dangereux que peut être ce pauvre type. Et en fait, je pense que Carlos, jamais on a entendu parler qu'on lui filait des dossiers et que derrière Carlos, il avait monté des attentats ou qu'il allait, sa copine avait voulu en faire un. Donc moi, je trouve que Darmanin, c'est une erreur tactique d'avoir foutu ce mec-là dans cette prison, qui en plus, ça ressemble quand même à une espèce de gruyère. Rappelez-vous le mec qui devait aller à Lyon là pour chercher un travail et que sa mère derrière celle qui vendait la cam. Enfin, je crois qu'à un moment donné, tu vois, Vendin le vieil. Et je pense que c'est vraiment n'importe quoi de la mis là-dedans. Après, sur le sujet de lui redonner du contact physique au parloir, bah de toute façon, tu peux donner le contact physique, mais après tu fais une fouille. Tu fais une fouille et puis quitte à faire une fouille rectale s'il veut se foutre une clé USB dans le cul. Enfin, bon, c'est ça l'histoire. Hein. C'est que derrière, t'as des moyens pour que le mec, bien sûr que tu peux pas déshumaniser un homme, faut arrêter. À un moment donné, tu le mets en prison, tu vas pas lui retirer ses droits humains, ça c'est comme ça. Mais par contre, bah, si le mec, il a le droit à avoir des contacts physiques avec quelqu'un, quand il ressort du truc, eh ben, tu le fouilles de A jusqu'à Z et c'est comme ça. De toute façon, il y a des règles. Mais moi, je ne comprends pas que ce soit pas en centrale. En centrale, il y a assez de place pour prendre des mecs comme ça. Et en centrale, les mecs, ils sont aguerris sur ce type de personnes. Hein.
Alors moi, je suis d'accord qu'il ne faille pas déshumaniser un homme, mais pour moi, ce type de profil, je les mets dans la même case que les pédocriminels. Je regrette que la peine de mort n'existe plus. Je suis désolé de dire ça. Hein.
Carrément.
Ah oui, non, mais carrément. Désolé, je vais choquer les gens. Je suis désolé, le mec. Sous une idéologie, il est parti en mission et en plus, il a même pas eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que lui, il ne s'est pas fait exploser. Donc moi, je ne comprends pas. À la limite, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec lui, c'est une personne dont je pense aux victimes, aux familles de victimes, elles n'ont plus envie d'en entendre parler. Oui, et effectivement, comme tu dis, je comprends pas cette espèce de coup de com' comme pour démontrer que l'État garde la main, même sur ses terroristes les plus dangereux. Ben non, moi je trouve que le message qui est envoyé, il est catastrophique, et ça confirme qu'il y a toujours cette tension philosophique entre un État de droit, entre l'humanité ou la déshumanité de l'individu et le symbole que représente le 13 novembre aussi. C'est quand même l'un des drames les plus importants de l'histoire de France récemment.
Mmh. Barbara.
Le problème, c'est que cette mesure de parloir sécurisé, elle avait été mise en place après l'histoire de la clé USB. Mmh. La question du tribunal administratif, c'est de dire comment se fait-il que depuis la garde à vue de Salah Abdeslam au sujet de la clé USB, il n'y a eu aucune procédure qui a été faite. Donc le tribunal administratif lève la mesure de sécurité puisque le juge qui devait faire une procédure pour l'histoire de la clé USB ne l'a pas fait.
Donc on est plus sur une question de délai.
Donc léger dysfonctionnement. Ouais. Comment se fait-il que il n'y ait pas eu de mesure suite à cette clé USB ?
C'est plus la lenteur de la justice qu'il faut mettre en cause là.
Oui, clé USB qui lui avait été donc passée par une ex-compagne. Ouais. Et alors maintenant il y a sa nouvelle compagne. Bref, je ne sais pas. Il doit y avoir le Tinder des salafistes djihadistes parce que les noms.
Sujet en soi là, cette fascination de certaines femmes pour les.
Mais c'est comme Nordal Lelandais, des femmes en veux-tu en voilà qui leur écrit. Il y a des femmes, c'est là-haut, ça va pas fort. Hein. Donc excusez-moi.
Une fascination.
Il y a des tarés et ES. Bon bref. Donc la nouvelle compagne va venir, car la justice nous dit, je cite, Il ne faut pas porter atteinte au maintien des liens familiaux. Ah non, mais moi, je m'en tamponne complètement des liens familiaux de monsieur Salah Abdeslam. Papa, maman, la copine, le copain, je m'en fous. Il n'y a pas de liens familiaux pour ce type-là. Mais ça s'appelle comment, ce genre de prison? Ça s'appelle la prison Badinter du Pont-Moretti. La prison qui donne le confort des bourreaux, alors que la perpétuité réelle, elle est pour les victimes. Donc moi, je ne dis pas qu'il leur faut une prison à la chinoise, à la japonaise. Mais moi, j'aime bien la prison japonaise, hein, lumière allumée de 8h à 20h.
C'est ce qu'il avait avant.
Un petit bol de riz. Ouais,
Et puis,
ben, c'est très bien.
Un bol de riz, oui.
Et ben, c'était très bien. Et ça, perpétuité réelle pour Salah Abdeslam. Moi, ça lui laissera tout son temps pour faire sa méditation, ses prières, tout ce qu'il veut. D'accord? Mais les liens familiaux, je m'en fous du maintien des liens familiaux de monsieur Salah Abdeslam. Je m'en fous complètement.
Je ne veux pas
entendre ça, ça ne m'intéresse pas.
La réponse de la société ne peut pas être non plus la torture, voilà.
Oh, la torture. Le Japon, c'est tranquille, la prison. Regardez, monsieur Carlos Ghosn, bon, il a pas trop apprécié, d'ailleurs, il est parti dans une mallette. Mais.
Dans une malle de violoncelle.
Une malle de violoncelle. Bah écoutez, je crois que Salah Abdeslam ne joue pas du violoncelle. Donc
Puisqu'il parle de Carlos Ghosn,
c'est pas toléré dans sa vision à lui de la religion.
Il a posté sur Instagram, pardon, mais je fais une digression, désolé. Mais il a posté sur Instagram, une vidéo dans laquelle il appelle à venir au Liban et il vante les délices du Liban. J'ai vu ça passer Parenthèse fermée, parce que tu parlais de déshumanisation, là, déshumanisation. Simplement de le maintenir à l'isolement et de le maintenir hors contact.
Tu peux pas le maintenir hors contact. Après, moi, je trouve
pourquoi pas hors contact?
Le sujet, c'est que, rappelle-toi ce que les Américains ont fait quand ils ont chopé Ben Laden. Ils l'ont tué et ils l'ont mis dans la mer. Ils l'ont mis en mer pour pas que derrière t'en fasses un martyr, un héros. Ben là, en fait, si tu t'attrapes un mec comme ça, Abdeslam, et que tu le martyrises dans la prison plus que certains autres à côté de lui, après les gens vont dire, regardez, ils en font une victime, t'en fais un martyr. Après, il y a un sujet, je pense qu'en France, avec les prisonniers politiques ou terroristes, on sait pas s'y prendre. Moi, je suis désolé, mais Yvan Colonna n'avait pas à mourir sous les coups d'un mec qui était à moitié fou à côté de lui.
Exactement.
Yvan Colonna aurait dû être dans une centrale, et Yvan Colonna, à la fin de sa peine, aurait dû sortir comme un être normal parce que s'il avait été chopé, et Yvan Colonna, on peut aussi penser qu'Yvan Colonna était peut-être pas forcément coupable de ce qu'il a fait, parce que ça, il y a quand même un sujet là-dessus. C'est toujours pas vraiment.
Toi qui as assisté au procès, tu penses que Salah Abdeslam a vraiment apporté quelque chose à une meilleure compréhension des attentats du 13 novembre?
Bah en fait, non, je pense pas.
Il n'a pas été coopératif.
Il a parlé un peu, mais il n'a pas parlé tant que ça. Mais c'est surtout, c'est que.
Si on l'avait neutralisé quand on l'a arrêté, ça n'aurait.
Attention, tu ne peux pas le neutraliser quand ils l'ont arrêté, vu que. Je crois qu'il avait déjà été blessé, je crois, quand ils l'ont attrapé.
Pour ceux qui nous écoutent, et c'est là quand même ce qui doit nous interpeller. Normalement, pour la justice, quand tu vois arriver au greffe ou au tribunal administratif le dossier Salah Abdeslam. Normalement, tu dois dire que c'est prioritaire par rapport au dossier Marshall ou au dossier Boyer ou au dossier Lefebvre. Oui. Si tu veux.
J'espère pas.
Ça doit être prioritaire. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que j'ai ce dossier Abdeslam? Tu regardes.
Oui, mais c'est pas un bâton merdeux.
Tu fais en sorte de pas être hors délai. Qu'est-ce qui fait que finalement il bénéficie de cette mesure? C'est parce qu'on passe le temps, on passe le délai, donc finalement, boum, c'est presque une erreur, une erreur de procédure aujourd'hui. C'est comme le type, là, le détenu qui avait été relâché parce qu'on n'avait pas examiné à temps aussi son dossier.
Non, non, là, t'es sur un mec qui a vu.
Ah, là, t'as jamais vu les dysfonctionnements de la justice. Mais le problème, c'est qu'on a une justice qui ne nous rassure plus, qui nous fait peur.
Vite.
Regarde, on parlait des jeunes de Fresnes. Il y a quand même une décision de justice qui n'est pas bonne puisque les deux jeunes recommencent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Là, pareil, c'est-à-dire que tous les jours, on a quand même des cas de dysfonctionnement.
Alors,
pense que la question des moyens, c'est une chose, même si quand même il faut reconnaître que sous Macron, il y a eu un rattrapage budgétaire parce que c'est vrai que la justice française était un peu le parent pauvre des budgets régaliens. Mais ça n'explique pas tout. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière et revoir un petit peu le rôle des juges, parfois certaines idéologies, des juges qui sont peut-être trop syndiqués, des juges qui sont aussi trop sûrs de leur pouvoir.
Ce matin, il y avait un article dans le Béret Républicain, un très grand journal qu'il faut lire tous les jours, mais dans l'article, il y avait un article sur le fait que tu avais des jeunes juges qui démissionnaient, qui ne voulaient plus être juges parce que, au-delà du manque de moyens, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient plus juger à la va-vite. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne des dossiers et t'avais des articles très intéressants sur, par exemple, à Bobigny où ça finit à 4h du matin et que les avocats disent, mais moi, j'ai commencé le matin à 9h, 9h et à 4h du matin.
C'est ce que vous avez dit Trévidi,
Et donc aujourd'hui, tu es sur un dossier où tu te rends compte que même les juges, les jeunes juges, qui certainement ont fait ce boulot-là en ayant cette vocation de se dire je vais faire un truc intéressant et important pour mon pays, le mec, il y avait le témoignage.
C'est qui d'autre qui démissionne ? Les médecins à l'hôpital public.
Mais pareil.
Parce qu'ils ne soignent plus dans les bonnes conditions, les infirmiers. Les profs, ils démissionnent. Ben oui, le service public a été dégradé.
D'accord, mais tu as une priorisation des dossiers aussi.
Moi, je pense que pour Salah Abdeslam, il y a
trop d'affaires aussi.
Non, mais Salah Abdeslam, quand t'as le dossier Salah Abdeslam qui arrive, tu le mets sur le devant de la pile.
Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le procès étant fini et comme ils n'ont pas fait appel, moi, je suis convaincu que la plupart des gens dans la justice française ne veulent plus entendre ce nom-là. Donc, quand ce nom-là arrive, j'ai l'impression qu'on se dit
Eric,
on touche pas à ça.
Patate chaude.
Eric veut en discuter avec nous. Eric est électricien du côté de la Nièvre. Bonjour, Eric.
Bonjour à tout le monde.
Comment vous avez réagi, Eric ? Dites-moi.
J'ai eu des frissons de la nuque jusqu'aux orteils parce que pour moi c'est un crachat à la figure des familles des victimes qui elles n'auront plus la possibilité d'embrasser leurs proches et là on va donner la possibilité à Salah Abdeslam de le faire. Mais dans quel monde on vit ? La continuité en fait du sujet qui était juste avant avec les gamins de Fresnes et maintenant avec Abdeslam, excusez-moi, je vais inventer un mot, mais c'est la guimauverie de notre justice. Notre justice est devenue une guimauve. Le proverbe qu'on entend souvent, d'ailleurs, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Mais c'est en permanence ça. C'est devenu insupportable. Ce mec-là, je suis tout à fait d'accord avec Abel. Mais comme les pédocriminels, il faut le zigouiller ou alors
l'enfermer
dans des conditions strictes, normalement c'est ce qui devrait être mis en place.
Mais il est déjà à l'isolement.
Et pourquoi on continue pas?
Parce que le tribunal administratif estime que justement parce qu'il est à l'isolement.
C'est aux familles des victimes de décider.
Je vous explique la décision. Le tribunal administratif estime que comme il est déjà placé à l'isolement, donc il ne voit personne a priori, il a le droit à ses parloirs avec contact physique.
Mais les familles n'ont pas le droit aussi de plus entendre parler de ce genre.
Mais les familles, rien ne pourra soulager la peine des familles.
Non, mais elles ont aussi le droit de vivre maintenant en paix et de plus jamais entendre le nom d'Abdeslam.
Ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est toujours mieux quand on arrête aussi de donner leur nom. Notamment, par exemple, l'assassin de Toulouse, le terroriste de Toulouse. Il ne faut plus donner son nom ni à lui, ni à ses frères, ni à sa famille.
Parce que le processus de deuil psychologiquement,
ces gens-là, faut les oublier dans les oubliettes.
La cicatrisation inhérente au deuil. Chacun la vit de façon très différente. Mmh. Et je suis désolé, vous vous souvenez, on a reçu l'auteur du livre Journal d'un maton. Mmh. Dans le bouquin, il y a un chapitre où il explique que il y avait un directeur de prison algérien qui était venu là où il travaillait. Et le directeur de prison algérien était étonné de comment on n'était pas assez dissuasif en France. Il a dit, mais en Algérie, la prison, elle fait tellement peur. Les prisonniers sont pas traités comme en France. Et pourtant, on se plaint des conditions inhumaines des gens en France ou autre. Mais je suis désolé. En Afrique, les prisonniers.
Est-ce que ça réduit la délinquance?
Parce que tu parles de la peine de mort, Abel. Mais l'efficacité de la peine de mort, l'inefficacité de la peine de mort a été démontrée. Ça n'a jamais fait diminuer la criminalité.
Il est là, Sébastien Pitot. Il nous a appelé au 32-16, l'ancien surveillant de prison, qui était venu nous présenter son livre. Bonjour, Sébastien.
Bonjour, ça va ?
Oui, ça va. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Abdeslam, là, alors ?
Écoutez, moi, on avait évoqué justement la suppression des parloirs, les parloirs idiophones. Moi, j'y suis pas favorable, quel que soit l'individu. Après, on peut utiliser aujourd'hui des portiques à ondes millimétriques pour les familles comme pour les détenus. Donc, c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Après, j'entendais à un moment donné, je sais plus qui est intervenu sur la situation. Pas les avocats. Si, les avocats. Parce que les avocats, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont véreux, qui sont problématiques. Et je pense qu'il faut traiter les avocats au même titre que les familles sur les conditions d'accès. J'ai entendu quelqu'un parler de Carlos tout à l'heure. Et Carlos, on le sait pas beaucoup, mais la femme de Carlos, c'est son avocat, c'est l'avocate de tous les terroristes. Donc voilà, vous voyez, je pense qu'il faut arriver à relativiser certaines choses.
Rappelez-vous, Sébastien, Monsieur Pitot, quand Georges Ibrahim Abdallah, il recevait toute la clique dans sa cellule, carrément. On ouvrait la cellule et puis ils venaient tous faire des selfies avec Georges Ibrahim Abdallah. Excusez-moi, il y a un gros problème quand même de considération de certains terroristes dans notre pays, hein. Voilà. Il y a une espèce de fascination d'un certain nombre de gens pour ces espèces de maboules islamistes et islamo-gauchistes qui quand même posent certaines questions. Hein.
Mais la faute simplement du laxisme. Vous savez, moi, j'ai gardé Carlos pendant des années. Quand Carlos reçoit des colis de cigares qui arrivent de la Havane et qui sont tolérés par le gouvernement, parce que là, c'est le gouvernement, c'est plus le personnel pénitentiaire ou les directions. Mm-hmm. Comment peut-on faire?
Voilà.
Merci,
juste du laxisme.
Sébastien qui nous a appelé, Sébastien Pitot, l'ancien surveillant de prison. On vous conseille son livre, hein, un journal d'un maton, La vérité sur la corruption au cœur des prisons, aux éditions Fayard. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien.